Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel extérieur où nous allons user à nouveau les roulettes de notre studio mobile à travers le département. Et aujourd'hui, nous avons installé notre studio à l'occasion de la 10e édition du Salon du Livre de Verneuil-sur-Avre, Editon, où nous sommes bien installés afin d'échanger avec des auteurs, afin de rencontrer eh bien, le public également et puis de vous partager quelques moments d'échange justement avec ceux qui font ce salon. Pour Radio Propulser cette émission jusqu'à vos douces oreilles, c'est encore une équipe triée sur le volet qui œuvrera aujourd'hui, à savoir Sandrine, que vous pouvez retrouver également dans à la bibliothèque médiathèque de Bourthe. Nous avons Daniel qui est avec nous. Bonjour Daniel. De l'association Lire à Verneuil, porteuse également de ce salon du livre. Et à la réalisation, c'est bien entendu notre amie Lily.
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape?
Dans le sud de l'heure, 95.9. À Évreux, 102.4. Et partout ailleurs, sur principeactif.net.
Et pour ouvrir cette émission spéciale à l'occasion du Salon du Livre de Verneuil-sur-Avre, dit-on, nous avons été chercher la coordinatrice directement, Daniel. Hein, c'était ça l'idée. On s'est dit, on veut parler directement à ceux qui savent tout. C'était à peu près ça l'idée.
Oui, tout à fait. On s'est dit, Martine Onfray saura nous présenter donc. Le salon et nous dire aussi pour cette 10e année toutes les innovations, toutes les formes d'intérêt que l'on a envie pour se dire on va aller au salon.
Tout à fait, parce qu'on peut nous rejoindre, l'entrée est gratuite bien entendu.
Oui, et puis il y a des animations et des conférences et là nous allons écouter Martine Onfray coordinatrice, mais aussi présidente de l'association Lire à Verneuil.
Alors du coup, oui, quelle est un peu l'identité de ce salon du livre cette année? On a la tête dans les nuages quand même cette année.
Alors on va même encore plus haut puisqu'on va la tête dans les étoiles. Alors la thématique que nous avons choisie cette année correspond aussi au cinquantenaire, en fait les 50 ans des premiers pas sur la Lune cette année. Et puis nous avons trouvé, moi et les membres de mon bureau, que cette thématique était parfaite pour le livre, parce que quoi de mieux qu'un livre pour rêver et pour partir dans les étoiles et dans l'espace, bien sûr. Voilà, donc c'était une thématique toute trouvée.
Il y a une mise en scène de salon, c'est-à-dire que dès l'entrée, on est accueilli par des créations qui nous rappellent l'espace et les étoiles. Il y a aussi des animations, il y a tout un tas de choses autour de la thématique. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une rencontre avec des auteurs, mais c'est aussi un lieu de vie, ce salon. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'on peut y retrouver
Oui, bien sûr, c'est un salon. Donc, autour de la thématique, on a donc plusieurs animations. Donc, comme vous l'avez justement dit, il y a des sculptures qui ont été réalisées par Edith Delattre, donc, qui sont son interprétation de l'espace et des planètes. Il y a aussi deux expositions de l'Observatoire de Paris. On a aussi Planète Science, qui est une association normande, qui présente un planétarium pour les enfants. On peut découvrir les étoiles. Il y a également des auteurs spécialisés aussi dans le domaine. On a aussi deux astrophysiciens. Et là, on se régale parce qu'en plus, ce sont des astrophysiciens qui ont respectivement 29 et 30 ans. Donc, c'est toujours très impressionnant de recevoir des jeunes gens qui sont brillants, comme les étoiles, on va dire. Et puis, bien évidemment, aussi, autour de ça, on a nos auteurs, puisqu'on veut promouvoir la lecture dans le sud de l'heure.
Alors, promouvoir justement la lecture, sous quelle forme?
Alors, c'est donc des rencontres avec des écrivains normands, bien sûr, mais aussi des écrivains de l'édition française. Et on aime beaucoup aussi mettre en avant des jeunes auteurs et des jeunes éditeurs. Donc là, sur le salon, on a beaucoup de jeunes auteurs pour qui c'est leur premier salon. Et c'est une façon de promouvoir aussi la lecture et ce travail aussi d'illustrateur ou d'auteur qui est bien, bien difficile de nos jours pour percer, pour se faire connaître. Et un salon est là pour ça, pour faire connaître les jeunes auteurs.
Et puis échanger aussi avec un auteur, c'est totalement différent que de le découvrir qu'à travers une quatrième de couverture, par exemple.
Bien évidemment, c'est toujours intéressant, alors même si c'est parfois très impressionnant. Mais là, j'ai eu le plaisir de voir beaucoup de personnes arriver avec le programme où il y a donc les auteurs cités et chercher son auteur préféré parmi les auteurs présents. Et ça fait très plaisir de voir qu'on a quand même tapé juste avec le public verneuilien.
Alors effectivement, il y a donc toutes ces animations, mais il y a aussi des conférences.
Oui, tout à fait. Alors, il y a une conférence qui nous a semblé surprenante et malgré tout très intéressante, donc à la MJC. Donc un auteur qui s'appelle Robin Walter, qui a écrit une bande dessinée en s'inspirant de la vie de son grand-père qui est malheureusement passé dans les camps de concentration. Camps de concentration dans lesquels ont été construits les premières fusées V1, V2, qui sont donc des fusées qui ont été à la base de tout programme Apollo et donc du premier pas sur la Lune. Donc ces fusées qui ont été construites dans les camps de concentration par Werner von Braun, donc un ingénieur allemand, qui a été ensuite récupéré par les Allemands et qui a donc participé très largement à la construction de la première fusée qui a été sur la Lune.
Oui, alors sur cette 10e édition du Salon du Livre, on le disait, c'est la 10e édition. J'imagine que 10 ans, ce n'est pas anodin quand on organise un événement culturel de manière générale. Elle a quel goût, cette 10e édition?
Elle a une belle saveur. Parce qu'on a en plus réuni tous les acteurs de ce salon depuis le début, donc depuis 10 ans, où plusieurs présidents se sont succédés, des auteurs qui nous sont fidèles depuis le début, des auteurs nationaux de renom qui nous suivent, qui nous aident, qui nous soutiennent. Et donc tout à l'heure, on a soufflé un beau gâteau avec 10 bougies, et c'était en hommage aussi à la créatrice Geneviève Moll, qui nous a quittés en 2012, qui était donc la rédactrice en chef du JT de France 2, et qui, à sa retraite, a décidé de monter un salon à Verneuil. Et voilà, et on a tout pris le relais après. Donc c'est un événement particulier parce qu'il réunit tous les gens amoureux des livres, bien sûr, mais aussi tous les amis de Geneviève qui ont œuvré pour faire perdurer ce salon.
Eh bien, merci beaucoup à vous, Martine, d'être passée par nos micros. On vous a sauvagement pris 10 minutes de votre temps, oui, parce que je vois que vous courez en permanence.
Je retourne voir mes auteurs.
Oui, c'est ça, vous n'arrêtez pas de œuvrer sur ce salon. Merci beaucoup
merci
de nous
vous.
Avoir
merci.
Accordé ce petit moment. Nous, Daniel, on poursuit avec les rencontres et les échanges. Nous étions avec Sandrine qui était partie à l'aventure pour revenir avec Pierre-François Mouriot. Alors, je ne sais pas où elle est. Je vais proposer à notre amie Lily peut-être de faire un petit tour musical le temps que notre auteur s'installe en plateau avec peut-être le duo Agnel, si ça vous va, Lily. Moi, j'aime bien. C'est un peu de douceur dans ce monde de brut et moi, j'aime la douceur. Lily, c'est à vous. Thank you. Voilà, c'était plus fort que nous. C'est le duo Agnel, groupe régional qui a été exploré et remettre au goût du jour tout ce répertoire, notamment médiéval, avec des instruments de fine lutherie, comme nous pourrions dire.
Principe actif. À Breteuil sur Iton, 95.9.
Et bien là, on est justement hors antenne. Il y a Daniel qui me dit: oh bah super, profites-en pour dire que le duo Agnel, vient prochainement. Tu peux peut-être nous redire plus précisément ce qu'il en est.
Effectivement, ils viennent, mais aussi en groupe en fait, puisque ça sera une ouverture non seulement médiévale, mais aussi orientale et jazz. Et ça sera donc vendredi à la salle des fêtes et à 20h30. Voilà, vendredi 20h30. Alors j'en profite puisque
à la salle des fêtes de Verneuil-sur-Avre, dit-on.
Verneuil-sur-Avre. Alors j'en profite pour dire aussi que c'est en fait les automnales, et il y aura trois soirées. Le lendemain sera une soirée plutôt conte normand, et le surlendemain ce sera Ben Herbert qui sera là aussi. Voilà.
Très bien. Merci Daniel pour toutes ces précisions. Justement, bon, ça papote et ça se dissipe juste à côté. Sandrine nous a rejoint et t'es venue avec un des invités de ce salon du livre.
Tout à fait. Je suis venue avec Pierre-François Mouriot. Donc Pierre-François, vous êtes journaliste, spécialiste du domaine spatial, responsable de la rubrique Espace du magazine Air et Cosmos. D'où vous vient cette passion pour l'espace ?
Alors c'est une passion qui est vieille depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Donc je fête cette année les 40 ans de ma passion.
Bon anniversaire.
Merci. Et qui est née au moment des 10 ans du premier pas sur la Lune.
D'accord.
Grâce notamment au fait que je suis tombé sur un article de Mickey Magazine qui présentait le 10e anniversaire. Mmh. J'en ai parlé à mes parents et mon père avait gardé tous les journaux de l'époque. Et donc la découverte pendant l'été 79 de ces journaux, puis le lancement d'Ariane à Doel suivant, on déclenchait une passion qui ne m'a pas quitté depuis.
D'accord.
On est dans le rêve pur quand même, dès qu'on parle d'espace, de cosmos et tout. On est sur un truc qui invite forcément à l'imaginaire. Vous évoquiez ça, ses premiers amours autour de la jeunesse.
Alors, j'avais déjà lu Tintin, donc déjà Tintin avait éveillé. Alors justement, ça a été la confrontation entre la fiction et la réalité. Quand je suis allé voir mes parents, en découvrant ces vraies photos des premiers pas sur la Lune, la référence a été, on a marché sur une dans Tintin, mais ça c'est de la fiction, c'est vraiment devenu possible. Et donc oui, on est toujours dans l'imaginaire. Je suis intervenu vendredi dans des classes et j'ai réussi à tenir l'après-midi 3 heures. Les enfants, ils ont les yeux grands ouverts. Il y a de la technique, il y a de l'industrie, il y a des emplois derrière, il y a des choses très sérieuses, mais il y a une part de rêve qui est incroyable et universelle.
C'est vrai qu'au niveau des enfants, c'est toujours admirable. Moi, j'ai fait... je vous rappelle en fait que je suis bibliothécaire à la médiathèque de Bourthe.
On l'avait dit au début. Hein,
ouais, je sais plus, excuse-moi. J'ai pas bien écouté, en fait. Je suis une mauvaise élève. Et mercredi de cette semaine, un atelier a été organisé avec une association de l'Aigle, enfin la Chapelle Vielle plus exactement, Pays de l'Aigle Astronomie. Et voilà, les jeunes qui ont participé à cet atelier ont été complètement subjugués. Donc je reviens à vous, Pierre-François. Vous êtes également président de l'association Histoire d'Espace. Donc c'est un site internet sur l'histoire de l'espace, la mise en valeur de personnages méconnus ou oubliés, comme Alexandre Ananov. Donc vous avez publié la biographie en 2013, et pour laquelle vous avez reçu le prix Aubinière de l'Institut français d'histoire de l'espace. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots sur ce pionnier ?
Oui, alors prix et le livre que je partage avec mon camarade historien Philippe Varnotto, puisque c'est un travail de longue haleine, d'une petite dizaine d'années à deux, puisque j'ai eu la chance, quand j'ai travaillé au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget, de rencontrer le fils Alexandre Ananov. Et moi, j'ai été formé par Albert Ducrot dans les années 90, Albert Ducrot qui s'est formé auprès d'Alexandre Ananov. Donc il y a une vraie filiation. Et Alexandre Ananov, qui c'est un journaliste autodidacte, plus qu'un journaliste, un vulgarisateur, quelqu'un qui, dès les années 20, fin des années 20, alors qu'il était un émigré d'origine russe, géorgien, arrivé en France avec un très fort accent. Il est tombé sur un livre de prospective spatiale et ça a été un déclic, une révélation, et il était persuadé qu'on marcherait un jour sur la Lune, et il ne s'est pas trompé à 70 ans près. Et il a commencé à l'âge de à peine 20 ans à faire des conférences en disant « bientôt nous irons sur la Lune ». Alors au début ça a beaucoup fait rigoler, mais à force il avait un autre métier, c'est quelqu'un qui était dans l'édition chez Hachette, mais sur tout ses temps libres il faisait des conférences, des articles, il organisait des associations, il rencontrait des journalistes, il faisait vraiment ce qu'on dirait aujourd'hui du lobbying multimédia, déjà à l'époque, puisqu'il a été sur les premiers 45 tours, il a fait de la radio, il a fait de la télévision à la fin de sa vie. Donc ça a été le premier grand partisan, grand vulgarisateur de l'espace. Et il est connu surtout des tintinophiles, parce qu'il a écrit un livre qui recueillait un peu tout ce qui se connaissait pour le grand public en 1950, au moment où Hergé commençait à travailler sur Objectif Lune.
D'accord.
Et donc Hergé l'a contacté et il est devenu un peu son conseiller à distance. Ils se sont rencontrés. Hergé est venu lui montrer une maquette à Paris. Le professeur, qui n'était pas professeur mais que les journalistes ont appelé comme ça, le professeur Ananoff, est bien connu des gens qui s'intéressent à Tintin et la genèse de On a marché sur la Lune.
D'accord. Vous êtes également auteur et co-auteur de livres jeunesse dont Comment on fait pipi dans l'espace,
c'est ça, oui je travaille
2016
depuis, voilà, je travaille depuis 6 ans pour Fleurus.
Donc vous, parmi toutes les questions qu'on peut se poser pour devenir astronaute, vous vous demandez comment on fait pipi dans l'espace?
Alors moi, non. j'assiste depuis que je suis tout petit, vous l'avez compris. Dès que j'ai pu assister à des conférences d'astronautes, j'y suis allé. Et je continue, ce qui fait amuser, il y a certains astronautes avec qui je suis devenu un petit peu proche et qui s'amusent de me voir encore à leur conférence en disant « mais tu connais les réponses ». Et en fait, je suis amusé de voir aussi les questions.
Tout à fait.
Et j'avais l'idée, la jeunesse du livre « Comment on fait pipi dans l'espace », c'était de faire un recueil des questions les plus souvent posées. Et alors, à tous les coups, vous avez la question
celle-ci revient.
Qui démange les parents et qui est souvent posée par les enfants, mais on sait des fois d'où vient la question. Voilà, donc c'est une question qui revient fréquemment. Et c'est amusant parce que des fois, elle est posée cash direct dès la première question, puis des fois, ça attend un petit peu, les gens hésitent, et puis c'est à la fin. Vraiment,
ils n'osent pas se lâcher. Voilà. Donc, sous ce titre provocateur, vous abordez également d'autres questions pratiques. Vous pouvez nous en parler?
Oui, en fait, c'est... je vous ai dit au départ, l'idée c'était les questions les plus fréquemment posées. Donc on n'a pas fait que le top 20 des questions, je ne sais plus, il y en a 45. C'est aussi, on a essayé de construire quelque chose de pédagogique, de didactique et qui correspond un peu à tout le parcours d'un astronaute, de son entraînement à sa mission. Et donc c'est les questions qui se posent autour du métier en général d'astronaute. Est-ce que ça fait peur? Est-ce que c'est dangereux? À quoi ça sert? Et comment on y arrive? Donc il y a des questions un peu techniques, des questions plus humaines, puis il y a les questions sur les besoins. Voilà, donc je ne vous répondrai pas, c'est page 39.
D'accord, donc je vous invite à le lire. Quel est le profil idéal pour vous pour devenir astronaute?
Alors, les profils ont évolué. Au départ, des cosmonautes comme Gagarin ou des astronautes qui ont marché sur la Lune comme Aldrin et Armstrong ont demandé vraiment surtout des pilotes, des anciens militaires, des gens qui n'avaient vraiment pas peur et qui avaient un physique un peu à toute épreuve. Aujourd'hui, on est sur une autre phase qui est plus... on est moins sur de la conquête, on est plus sur de l'occupation permanente et scientifique. Donc il faut une préparation physique minimum, mais on demande surtout à des gens à savoir manipuler. C'est vraiment des expérimentateurs qui sont là-haut pour 6 mois et qui font diverses expériences sur plein de domaines différents. Donc c'est plutôt des gens en bonne santé, mais pas des surhommes, éclectique, capable d'apprendre constamment, parce que quand vous êtes sélectionné, vous allez apprendre à devenir astronaute, et à bout de 2 ou 4 ans d'apprentissage, vous avez préparé votre mission, et c'est encore 2 ans. Donc c'est plutôt des gens très curieux, capables d'apprendre, très patients, très stables, parce qu'il ne faut pas avoir peur, il faut participer à des équipages multiculturels, dans des environnements confinés, qui ressemblent un peu à l'environnement des sous-mariniers. C'est vraiment très comparable à une mission de sous-marin. Le sous-marinier, il voit pas le paysage sur la Terre, on le voit, mais on rentre pas tous les 4 matins et les communications avec la Terre sont... Alors, maintenant, elles sont facilitées, mais voilà, il y a des points communs. Donc voilà, ça reste des aventuriers, mais peut-être moins surhommes que dans les années 60.
D'ailleurs, à ce propos, je vous invite à... Je sais pas si vous avez vu le film Thomas Pesquet, l'envoyé spatial. Il me semble que j'ai vu sur votre stand la jaquette.
Donc, j'ai assisté au lancement de Thomas Pesquet et j'étais avec l'équipe. Je connais bien le réalisateur Pierre-Emmanuel Le Goff, donc je l'ai vu.
Donc vraiment très, voilà. Très intéressant si vous voulez en savoir plus sur comment devenir astronaute et puis Voilà, Thomas Pesquet a vraiment l'air d'être très abordable comme...
C'est impressionnant. Moi, j'ai eu la chance de le croiser dès sa sélection en 2009. Mm-hmm. Et depuis, on est resté en contact. Et c'est quelqu'un qui, en plus, a compris l'intérêt des médias. Donc, il a une attention particulière aussi quand, au nom d'un média, on le sollicite. Mais à titre personnel, il est aussi extrêmement... accessible, abordable, intéressé.
Elle a vraiment envie de faire, de partager sa passion.
Ah, complètement. Voilà. Oui, il partage complètement.
Donc j'ai pu noter au travers des illustrations que le rangement était crucial. Pourquoi
imaginez qu'une station, c'est une sorte de navire autour de la Terre dans lequel vous amenez régulièrement du matériel et des équipages. Les équipages, c'est tous les 3 mois avec des rotations de 3 par 3. Mm-hmm. Chaque équipage de 3 reste 6 mois et puis tous les 3 mois, il y en a un qui part, l'autre qui revient. Donc il y a ces gens-là qui sont là en permanence et tous les 2 mois à peu près, il y a des vaisseaux automatiques qui leur amènent des vivres, du matériel, des expériences et des fluides pour alimenter la station.
Donc vous parlez bien de l'ISS.
On parle de l'ISS. D'accord. Et donc ce balai permanent, en fait, il n'y a pas autant de choses qui montent que de choses qui redescendent. Mm-hmm. Et donc, il y a un moment, ça s'entasse. Et surtout, le matériel dont vous avez besoin pour vos expériences peut changer selon les semaines. Il y a des expériences qu'on laisse de côté pendant plusieurs mois. Et donc, on a eu besoin de, je ne sais pas, tournevis, sondes particulières, différents types d'instruments. L'astronaute vraiment doit faire attention où il le range parce que tout flotte, donc tout peut se perdre. Mm-hmm. Et les équipages suivants ne vont pas apprendre par cœur où se trouve chaque objet. Donc on demande vraiment à l'astronaute si tu as pris tel objet. Alors quand il arrive, il ne sait pas forcément où c'est. Donc tel jour, ils ont des cyclogrammes tous les jours, ils ont sur leur tablette des expériences à faire. Et là, on leur dit, pour telle expérience, tu vas dans tel compartiment, trouver tel matériel, mais il faut le remettre à la place. Et tout ce matériel est géré au sol par des équipes qui ont des tableaux Excel ou je ne sais pas quel outil informatique qui répertorie où se trouve le matériel. Et si le matériel n'a pas été mis à sa place, c'est un peu la panique parce qu'on peut mettre des fois des semaines, des mois, des années à retrouver un petit appareil. Surtout que des fois, sans faire exprès, l'astronaute est prêt à le ranger, mais il le lâche. Il est préoccupé par autre chose et le petit ustensile se balade et va aller se loger dans un petit coin de la station qui est quand même grande comme un terrain de football. Donc voilà, c'est vraiment retrouver une épine dans une botte de foin.
Mais on retrouve le même problème en médiathèque. Hein. Quand un livre n'est pas rangé à sa place, c'est pas possible.
La médiathécaire qui parle. C'est ça. C'est le lien entre l'astronaute et puis la bibliothécaire.
En fait, on se ressemble. Ouais. On est dans l'espace tous. Merci Pierre-François.
Je vous en prie.
Donc je vous invite à lire Comment on fait pipi dans l'espace.
Très bien.
Chez Fleurus.
Eh bien, nous n'y manquons pas. Effectivement, c'est une question à laquelle... c'est page 39, je crois, la réponse. Donc, c'est une question à laquelle nous trouvons la réponse, page 39.
Parce que le problème se pose aussi pour les femmes. Il y a aussi des femmes dans l'espace.
Oui, mais
parce
là,
c'était toujours des hommes. Mais
c'était non-genré. La question était non-genrée, qu'on soit clair.
Il y a 10% à peu près de femmes astronautes, mais qui ne sont pas preuves. Il y a eu du sexisme dans les premières sélections, parce que c'était surtout. On demandait à des pilotes militaires, il n'y avait pas de femmes pilotes, mais il y avait un chef de programme qui pouvait être sexiste. Aujourd'hui, les candidatures sont ouvertes à tout le monde, mais c'est les femmes elles-mêmes qui s'auto-censurent, et il y a à peu près 10% de candidatures femmes. Donc le résultat final est un peu à l'image de l'acte de candidature lui-même. Donc les chefs d'agence, il y a plus de femmes qui...
Vous pensez que c'est de l'autocensure ?
Ah oui, oui.
Je pense que c'est ouvert aujourd'hui, mais ça ne l'était pas auparavant.
La sélection de 2008 avec Thomas Pesquet, il y a eu très peu de femmes, parce que les filles ne se dérangent pas vers les sciences. Elles pensent que c'est pas... Il y a un vrai problème culturel encore. Il faut encourager les filles à faire des sciences, bien sûr.
On y arrivera.
Très bien, merci beaucoup à vous, Pierre-François Mouriot, d'être passé par nos micros. On poursuit nos échanges et j'invite Lily peut-être à mettre un court intermède musical parce que nous voulons rencontrer les auteurs, nous voulons rencontrer ceux qui font ce salon. Donc un petit intermède musical, vous voulez le faire à la bouche, c'est ça Lily ? Faites-le à la machine s'il vous plaît. Allez, un peu de musique et on revient juste après. We'll be right back. et c'est Métro Verlaine avec le titre Manchester. Nous sommes toujours en direct, en live et en public du Salon du Livre de Verneuil-sur-Avre, dit-on, et c'est sa 10e édition.
J'ai l'intention de tenir l'antenne 24 heures sur 24 jusqu'à ma mort. Et puis même encore après, s'il le faut.
Mais tu crois pas que ça pourrait peut-être finir par être légèrement monotone comme expérience pour l'auditeur ?
Principe actif, 102.4 FM.
Nous venions de le dire en direct, en live, en public du Salon du Livre de Verneuil-sur-Avre, édit-on. Et c'est Daniel qui nous ramène l'invité qui vient de s'installer avec nous. Daniel.
Olivier Truc est parmi nous. Merci, merci à vous. Vous êtes journaliste, auteur. Vous êtes connu pour vos voyages, notamment en Laponie. Vous vivez habituellement à Stockholm en ce moment. Et voilà, après avoir beaucoup, beaucoup voyagé, ben, vous aimez aussi écrire. Et l'un de vos derniers livres, c'est Le cartographe des Indes boréales. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire de tout ce parcours en Laponie et autour de ce livre ?
Bonjour, c'est une vieille histoire en fait, parce que moi je suis arrivé en Suède il y a 25 ans maintenant. J'ai découvert petit à petit la Laponie et les Samis et la vie du Grand Nord. J'ai fait des reportages en tant que journaliste et petit à petit j'ai commencé à faire des livres, des romans policiers. Et qui mettent en scène la police des Rennes, deux enquêteurs de la police des Rennes. Et l'idée avec ces enquêteurs de la police des Rennes, c'était de raconter aussi les coulisses de la vie du Grand Nord, de raconter le destin du peuple Sami, les discriminations dont ils sont l'objet, et de raconter un petit peu tout ça. Et le cartographe des Indes boréales, l'idée de ce livre est née déjà il y a une dizaine d'années. Et pour moi, c'est la même histoire que les polars. Ça raconte la même histoire. Le cartographe, ça raconte l'histoire d'un cartographe basque qui se retrouve petit à petit engagé dans la colonisation de la Laponie par les Suédois au XVIIe siècle. Et en fait, c'est l'histoire qui se déroule avant les polars. Donc, mais pour moi, c'est la même fresque en fait. C'est le négatif du modèle nordique, tout simplement.
Donc, ça veut dire que pour vous, en tant que journaliste, auteur, vous vous êtes dit cette police des Rennes, qu'est-ce que ça veut dire en fait en Laponie, avec notamment autour de ce peuple Sami, comment cela peut se faire, et vous avez voulu aussi le traduire aussi dans votre livre.
C'est-à-dire que moi, comme je vous le disais, je fais des reportages sur la police des Rennes. J'ai fait plein de reportages depuis 25 ans un peu partout en Europe du Nord. Et avec cette police des Rennes, que j'ai suivie sur le terrain pendant plusieurs mois, j'en ai fait ensuite une histoire. Parce qu'à travers la police des Rennes, à travers les enquêtes de la police des Rennes, en fait, ces enquêtes racontent, permettent d'approcher au plus près du quotidien des habitants du Grand Nord, qu'ils soient éleveurs de rennes ou bien engagés dans, que ce soit des géologues, de l'industrie minière, des forestiers. Et au fil de ces enquêtes, c'est la vie quotidienne et tous les défis qui se posent à cette région qui est très méconnue des Scandinaves eux-mêmes, puisqu'ils ne s'y intéressent pas en fait. Les Nordiques en général sont très indifférents à tout ce qui se passe dans le Grand Nord et au destin des Samis, qui est le dernier peuple aborigène d'Europe et qui pourtant raconte des enjeux qui sont universels, parce que ça raconte des gens qui veulent vivre d'une autre façon dans une économie qui est assez destructrice de ressources, et ça raconte la vie de gens qui essaient de vivre différemment.
Donc, est-ce que ça veut dire que dans ce livre, vous cernez, vous centrez sur des personnages, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de plus large ?
Non, ce sont évidemment des personnages, hein, sont des romans, donc ça raconte, on suit des personnages dans les romans dans les romans noirs avec la police des Rennes, on suit essentiellement deux enquêteurs, Clémette et Nina, qu'on retrouve livre après livre, qui sont des enquêteurs de la police des Rennes. On suit aussi bien leur histoire personnelle que les enquêtes et on découvre des tas de personnages. Il y a toujours des galeries de personnages assez importantes dans mes livres. Et puis dans le cartographe des Indes boréales, on s'attache dans les pas de Isco de Echeverri, qui est au début du livre, un jeune basque de Saint-Jean-de-Luz qui rêve de devenir chasseur de baleines comme son père et dont le destin va basculer quand on l'envoie se former à la cartographie au Portugal. Et petit à petit, on l'envoie avec des missions un peu particulières, on va dire, d'espionnage en Suède. Et tout ça va l'amener à se retrouver à accompagner la colonisation de la Laponie par les Suédois. Il va essayer de freiner le mouvement. Ça va l'embarquer dans des aventures dramatiques. Mais tout ça avec, là aussi, une galerie de personnages importante. Et tout ce que je veux raconter, pour moi, est toujours incarné par des personnages, par des scènes, des dialogues. Voilà, c'est pas des... Tout doit passer par des personnages.
D'accord. Donc ça veut dire que vous mettez bien en valeur certains enjeux aussi bien historiques qu'humanistes.
Ben, c'est au gré des personnages. C'est une histoire qui s'étale sur 65 ans, qui traverse l'Europe, qui traverse le siècle. C'est aussi un livre de géopolitique, si on veut le lire comme ça, puisque Isco, mon personnage de cartographe, va se retrouver aussi bien au contact des Hollandais, des Suédois, des Français. Il va servir un juge du Parlement de Bordeaux qui travaille pour Richelieu, puis pour Mazarin. Il va se retrouver au plus près de la couronne de Suède et à jouer un double rôle souvent. Donc à travers tout ça, à travers son personnage, à travers ses actes quotidiens, ses décisions, les drames qui va se jouer par rapport aux Sami, puisqu'il va se retrouver au contact de Sami en Laponie au XVIIe siècle, qui sont des gens qui sont, pour les Suédois, ils ont la terreur des Sami à l'époque, ils les prennent pour des sorciers. En plus, la Suède à l'époque est protestante, luthérienne, depuis peu de temps. Donc les luthériens, les pasteurs luthériens qui vont jouer un rôle important dans ce livre à travers certains portraits, certains personnages, craignent énormément le retour du catholicisme. Donc c'est tout ça que va vivre Isco. On va vivre tout ça à travers lui.
Donc, si je comprends bien, un livre très riche. Et donc, c'était donc le cartographe des Indes boréales, ce livre. Et vous disiez aussi que ce n'était pas votre dernier livre. Le dernier étant l'affaire Nobel.
Oui.
Alors là, on est tout à fait dans un autre registre, aussi bien dans le temps que dans l'espace.
Oui, l'affaire Nobel, dont le sous-titre est une autre histoire de la Suède, est un livre... qui est sorti il y a quelques jours chez Grasset, qui revient sur l'histoire qui a secoué, ébranlé la Suède depuis un an et demi, à savoir les révélations sur un Français qui habite en Suède, qui a été accusé de harcèlement sexuel et de viol de plusieurs dizaines de femmes. Et qui était époux, qui est toujours l'époux d'ailleurs, d'une poète, membre de l'Académie suédoise à Stockholm, cette même académie qui décerne tous les ans le prix Nobel de littérature. Donc cette affaire a eu des répercussions énormes, ça a provoqué une scission au sein de l'Académie entre deux clans qui se sont affrontés à travers les médias, etc. Ça a pris de telles proportions que la Fondation Nobel, qui gère un petit peu l'image du prix Nobel, a tapé du poing sur la table, a obtenu que le prix Nobel de littérature soit annulé, soit suspendu l'an dernier, c'est-à-dire dire l'ampleur de cette affaire. Et je reviens sur toute cette affaire, sur tous les personnages clés aussi, je m'attache à des personnages pareils, et je raconte à travers cette histoire, avec cette histoire-là comme fil rouge, je me permets des tas de digressions pour peindre aussi une espèce de profil de la Suède et comment ce pays dans lequel j'habite depuis 25 ans a évolué aussi depuis 25 ans. Mmh.
Comment décririez-vous cette évolution ?
C'est-à-dire que la Suède est un pays qui est de plus en plus ouvert. C'est un pays qui a toujours été ouvert, la Suède, mais c'est un pays où les valeurs sont ébranlées, clairement. Et ça raconte un petit peu ça aussi, la chute de la maison Académie, si je puis dire. Ça raconte aussi un pays qui a été pendant très longtemps extrêmement imprégné par la social-démocratie. La social-démocratie a un poids prépondérant dans l'histoire moderne du pays. Et cette social-démocratie s'effrite de plus en plus. Certaines valeurs s'effritent avec elle. Cette histoire de l'Académie suédoise et de ce que ça a entraîné raconte un peu ça aussi.
Eh bien, écoutez, Olivier Truc, vraiment, je vous remercie pour votre générosité dans toutes les informations que vous nous transmettez. Et là, on sent bien aussi bien votre veine journaliste que d'auteur. Nous n'avons qu'à vous souhaiter effectivement une bonne continuation. Et puis, bravo pour les autres livres aussi que vous avez certainement en tête.
Merci à vous.
Au revoir, bonne continuation.
Merci beaucoup, Olivier Truc. C'est vrai que moi, dans ces questions autour des grands espaces, autour notamment de la Laponie, alors moins effectivement sur la Suède, mais plus sur la Laponie, moi, il y a cet imaginaire de novice qui voit très bien le lien entre l'espace et finalement ces terres que j'imagine désertiques et qui ne le sont peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, dans mon imaginaire, je vois bien ce lien entre l'espace et puis ces grandes terres du Nord. Merci beaucoup à vous. Lily, le temps d'accueillir nos invités d'après, car c'est Sandrine qui a été chercher les équipes du Space Bus. Voilà, une légère transition musicale, le temps d'inviter nos invités d'après. Fama, Fama, Fama et les Tontons Friends, un groupe régional également qui fait toujours plaisir à être écouté.
Principe actif 102.4 FM
et 95.9 FM également dans le sud du département, bien entendu. Sandrine, tu étais en vadrouille et tu t'es arrêtée faire tu t'es arrêtée
de
dans un bus
rencontres.
Quoi. Ouais, non mais de voilà, je voulais pas trop en dire, mais en tout cas, t'as fait de belles rencontres et tu t'es arrêtée au
Space Bus France, exactement, une association de vulgarisation de l'astronomie. Et nous avons donc Raphaël Peralta, qui est un docteur en astrophysique, qui a écrit une thèse sur les étoiles, qui est ingénieur de recherche pour la mission spatiale européenne Euclide, dont le lancement est planifié pour 2021 et l'objectif est de mieux comprendre la matière noire et l'énergie sombre. Ça y est, vous m'avez perdu.
Et pourtant, il voulait vulgariser tout ça au démarrage.
Oui, au démarrage.
Donc, va falloir
mais
nous
non,
expliquer.
Mais il va tout nous expliquer. Donc Raphaël, Spacebus France, c'est quoi exactement ?
Alors c'est une très jeune association, on a à peu près 2 ans et on est tous astrophysiciens ou tout du moins on travaille tous dans l'astronomie et l'astrophysique de tous les jours, dans la recherche publique et en fait on veut ces vulgarisations, vulgariser justement l'astronomie, les sciences de façon aussi générale auprès du grand public et donc pour ça on a créé donc l'association Spacebus France qui a pour but justement d'aller vers les personnes directement et de leur parler des sciences et de l'astronomie. On a 2 modes de fonctionnement. Le premier, c'est on va aux différents festivals, comme ici par exemple le salon, pour justement directement parler aux personnes d'astronomie. Et le deuxième mode de fonctionnement, c'est une fois par an, on va à peu près pendant 3 semaines, 1 mois, parcourir une zone de France pour justement nous installer sur les places publiques et parler d'astronomie avec les personnes.
Alors vous étiez où là? Je crois au mois d'août vous avez fait votre itinéraire. Et c'était où exactement?
Alors la première année, on était le long de la côte méditerranéenne et la deuxième, le long de la côte atlantique.
Très bien. Raphaël n'est pas venu tout seul, il est venu avec Kathleen. Kathleen Lance qui a 29 ans et qui est docteur en astrophysique. Donc alors vous avez écrit une thèse, je vais vous la dire. Écoutez bien. Donc, sur l'étude des processus d'altération aqueuse et de maturation des surfaces par space weathering des astéroïdes primitifs en support aux futures missions spatiales de retour d'échantillons. Moi, je vous avoue, je nage dans l'univers. Donc, vous êtes astrophysicienne. Donc, ça consiste en quoi, Kathleen ?
Alors, être astrophysicienne, ça consiste en quoi ? C'est étudier les astres. Donc aussi bien d'un point de vue observation, donc plus l'astronomie, mais là on est donc docteur en astrophysique, Raphaël et moi, donc on va faire de la science à partir des observations de ces astres-là. Mm-hmm. Donc Raphaël plus sur les étoiles et moi c'était plus les astéroïdes. Donc à l'époque je disais future mission de retour d'échantillons, parce qu'à l'époque où j'ai écrit ma thèse, ces missions n'étaient pas encore
en exploitation. Vous étiez jeune, c'est ça ?
J'étais jeune, il n'y a pas si longtemps que ça, mais maintenant les missions sont en exploitation. Et donc en gros ce qui se passe c'est qu'on va aller sur des astéroïdes, en récupérer des morceaux, d'accord, les ramener sur Terre et les étudier en laboratoire sur Terre.
Ah ben voilà, c'est plus concret.
Voilà.
Vous êtes des spécialistes de la vulgarisation. J'aimerais bien qu'on revienne sur des termes. C'est quoi un astéroïde ? C'est quoi une étoile ? C'est quoi l'énergie noire ? C'est quoi tous ces trucs-là ? En quelques mots, rendez-nous ça accessible, s'il vous plaît, si vous le voulez bien.
Ok, alors en quelques mots, mon gros sujet de thèse simplifié, on va dire. L'astéroïde, comme se plaît à le raconter mon petit camarade Raphaël ici présent, que je connais depuis de nombreuses années, ce sont juste des cailloux, plus ou moins gros, qui se baladent dans le système solaire et la grosse partie se rassemble dans une ceinture qu'on appelle principale entre Mars et Jupiter, donc qui orbite autour du Soleil comme les autres planètes, mais ça forme vraiment une ceinture, ça délimite entre Mars et Jupiter.
D'où viennent ces cailloux ?
D'où viennent ces cailloux ? Ce sont des reliquats en fait de la formation du système solaire. C'est-à-dire que pour former une planète, au début, ou un système solaire, vous avez juste un nuage de gaz de poussière qui a commencé à s'accréter, comme une boule de neige, l'effet boule de neige. Vous commencez à prendre une petite boule de neige, vous la faites rouler, elle grossit. Les astéroïdes, en fait, ont grossi à partir de poussière et eux se sont arrêtés. Et si vous continuez à accréter ces astéroïdes, vous formez les planètes.
Du coup, j'imagine qu'on a plein d'informations sur la création de nos planètes dans ces petits cailloux, finalement, qui gravitent.
Exactement. Tout l'intérêt d'observer et de comprendre ces astéroïdes, c'est qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout du processus de formation. Donc la Terre, par exemple, elle a été extrêmement chauffée. Vous voyez aujourd'hui la tectonique des plaques, le magma, tout ça, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie au départ. Du coup, elle est complètement modifiée. D'accord ? Les roches sont complètement altérées. Un astéroïde, il est resté presque froid, j'ai envie de dire. Il n'a pas été modifié. Donc en observant ces petits morceaux de cailloux, on remonte à l'information primordiale du système solaire.
Ouais, finalement, ce ne sont pas que des petits cailloux. En orbite, une étoile, c'est quoi alors? Parce qu'on lève le nez, on voit bien des lumières le soir. On ne se demande pas qui les allume, qui les éteint. C'est quoi une étoile?
Il n'y a pas besoin de les allumer ou les éteindre, elles le font toutes seules. En gros, c'est une grosse boule de plasma et elles brillent parce qu'elles sont chaudes.
Ce serait un peu comme notre Soleil alors?
Exactement, notre Soleil est la première étoile.
Est une étoile, la plus proche. Ça, je le savais.
Bravo.
Est-ce qu'il y a des trucs qui tournent autour de toutes les étoiles? Ou est-ce que c'est régulier?
Pas toutes, mais un très bon pourcentage. Exactement le pourcentage, je ne sais plus, mais effectivement, il y a beaucoup de... En tout cas, il y a de fortes chances de trouver une planète autour d'une étoile.
Est-ce qu'elles sont vraiment inaccessibles, celles que je vois le soir, quand je lève le nez au ciel?
La plus proche est à 4 années-lumière.
Donc, c'est pas si loin?
C'est pas si loin. La vitesse lumière, il faut 4 ans, sauf qu'avec notre technologie, il faudrait presque 750 000 ans pour y arriver. Donc soit on améliore notre technologie de propulsion, mais dans ce cas-là, il faut aussi que le corps humain puisse se développer, enfin, on puisse aussi l'aider à... Ou alors, créer des techniques, soit qu'on endort les personnes, ou soit qu'on crée des familles à l'intérieur, je ne sais pas, après ça devient de la science-fiction.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça me rappelle la planète des singes, ça. C'est très clairement... mais c'était ça, hein, l'objet, ouais. Un grand truc qui part avec des gens qui dorment et on voit où est-ce qu'on se réveille. On parlait tout à l'heure d'énergie noire ou je ne sais pas quoi, en quelques mots. Vous avez dit.
Scientifique, je ne savais pas, j'y sais qu'à ce moment-là.
Je suis juste naïf. C'est les mots qu'ils ont dit que j'ai pas compris. Et je leur envoie. Ils ont fait leur malin en arrivant en disant qu'ils vulgarisaient.
En fait, ils veulent.
Eh bien, je veux que ça vulgarise. Hein.
Mince, on est mal barré. Alors, en gros, la matière noire, Newton, au début, lorsqu'il a créé la gravité, enfin, lorsqu'il a créé l'équation de gravité, il a juste essayé d'expliquer pourquoi une pomme tombe. Après, Einstein, il a voulu aller un peu plus loin et il a créé la relativité générale et restreinte. Et avec, en fait, aujourd'hui, notre modèle de gravité, on voit qu'en fait, à grandes échelles, typiquement de notre galaxie, voire les différentes galaxies, ce modèle ne tient plus. Du coup, soit notre modèle est faux, ou soit il y a de la matière que l'on ne voit pas, c'est pour ça qu'elle est noire. Et donc la matière noire, ça serait un truc qu'on rajoute pour justement justifier tout ce que la différence que l'on voit et que l'on mesure.
Aujourd'hui, on appelle matière noire finalement ce qu'on n'arrive pas à comprendre alors.
C'est pour ça qu'elle est noire.
Très bien, ouais, mais peut-être qu'elle est de plein d'autres choses. Mais ça, nous le saurons dans plusieurs siècles.
Alors,
peut-être,
aujourd'hui,
ou peut-être jamais.
Avec toutes nos technologies, en tout cas les détecteurs, etc., on ne peut pas la voir. Donc a priori, ce serait juste quelque chose qui ne pourrait pas interagir avec le reste de la matière autrement que par la gravité.
Donc là, vous animez deux ateliers, durant le salon. Donc un premier atelier qui s'appelle Mythes et Sciences, et un deuxième, La Science fait son cinéma. Deux petits mots?
Alors, je peux en faire un et Kathleen fait le deuxième.
Chacun le sien.
Alors moi, c'est la science dans le cinéma. Donc autrement dit, bien souvent on voit ou on peut lire, soit dans les BD, dans les livres ou même au cinéma, on voit plein de films, hein, ce qui est très bien sur l'astronomie ou enfin, dans l'espace, etc. Ça fait rêver les gens. Mais est-ce que tout ce que l'on voit est correct ou pas? Alors du coup, c'est un bon moyen de parler de science avec les personnes, justement à travers différentes images. Par exemple, alors ça peut même être Harry Potter ou alors Star Wars. On s'appuie beaucoup sur Star Wars, les sabres laser, la vitesse lumière, etc. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est juste une question de technologie? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'y arrive pas, mais demain, peut-être qu'on y arrivera. Donc voilà, on discute de tout ça avec les personnes.
D'accord, on va voir si c'est de la science-fiction.
Est-ce que c'est
pas
de la science
ou
un
science
jour
réalité.
Ou est-ce que c'est... Voilà.
Beaucoup de science-fiction a été de la science-fiction avant de devenir de la science ou de la réalité tout de même. On ne va pas revenir jusqu'à Jules Verne, mais il y en a d'autres même avant Jules Verne. Et là, c'est un des meilleurs exemples. Ce qui était science-fiction un jour est devenu quotidien.
Tout à fait.
Et donc la deuxième activité tourne autour des mythes et légendes en lien avec l'astronomie. Donc par exemple, on a plein de petites cartes qui énoncent une phrase. Par exemple, je ne sais pas, la Lune ne tourne pas autour d'elle-même, c'est pour ça qu'on voit toujours la même face. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et on va donc amener les gens à débattre qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils connaissent, et amener plus du côté de physique, pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est faux, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas? Est-ce que les météorites, quand elles tombent, est-ce qu'elles sont froides? Est-ce que toute la nuit, les étoiles sont allumées, éteintes, est-ce qu'elles sont mortes? Tout plein de phrases pour essayer de comprendre les idées reçues aussi que l'on peut avoir sur l'astronomie et qu'est-ce que nous, scientifiques, on fait avec ces études-là.
Je ne vous laisserai pas poser des questions sans nous apporter des réponses. Alors, est-ce qu'on voit la Lune toujours du même côté?
Ça, c'est vrai, oui, mais il faut comprendre pourquoi.
Il y a de la face cachée de la Lune.
J'avais envie de vous poser la question. Alors, est-ce qu'on peut avoir une réponse en quelques secondes? Est-ce que c'est accessible?
Alors,
à vous?
C'est accessible facilement. Après, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable de le faire avec une petite maquette pour montrer. La réponse à cette question, c'est qu'en fait, la Lune tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. Ça s'appelle une rotation synchrone, même temps.
Et c'est par hasard ou il y a une raison scientifique?
Il y a une raison scientifique.
D'accord.
Ça aurait pu être un hasard. À l'époque, elle tournait plus vite et elle s'est ralentie, pardon, et il y a eu un équilibre qui s'est créé.
D'accord.
C'est pour ça que maintenant, la Terre et la Lune sont dans ce système, dans cette phase d'équilibre.
Les astéroïdes, vos petits bouts de cailloux, ils tombent froid ou chaud?
À votre avis?
Oh, bah pour moi, là, ils ont le temps de refroidir quand même avant d'arriver. Autant ils ont eu chaud au bout d'un moment.
C'est surtout qu'ils passent la couche d'ozone.
C'est ça, c'est que de toute façon, ils sont tellement froids. Avant d'entrer dans l'atmosphère.
Je me permets, vous avez un faux contact, alors je veux bien vous inviter peut-être à faire... Voilà, bah, changer de micro, parfait.
Ces astéroïdes, en fait, avant qu'ils tombent sur Terre, donc ça devient des étoiles filantes. C'est ça qu'on appelle étoiles filantes. Ce sont même des petits morceaux de poussière, des petits morceaux de cailloux, qui, en traversant l'atmosphère, vont chauffer énormément.
Donc là, okay, ils sont chauds.
Parce que vous frottez vos mains, vous les frottez, vous faites un frottement, okay, ça chauffe, vous voyez très bien. Le caillou, il rentre dans l'atmosphère, il était dans le vide, il n'y avait rien. Tout d'un coup, il se prend un mur, d'accord, il se prend plein de petites particules qui frottent la surface, ça chauffe, du coup, il brûle. Mais une fois qu'il arrive sur Terre, il était tellement froid déjà quand il était à l'extérieur qu'il n'y a que les parties extérieures qui sont calcinées. Et une fois qu'il tombe, il est déjà de nouveau très froid. C'est même pas surprenant de voir un petit peu de givre parce qu'il fait quand même froid dans l'atmosphère.
Tout à fait. On se fait pousser parce que là, c'est la remise. On aurait pu vous garder longtemps parce que j'ai un milliard de questions, autant vous le dire. Hein. Vous l'avez remarqué, je vais vite à la question.
Il faut venir sur notre stand.
Oui, mais c'est ce que j'allais dire. C'était la conclusion de l'échange. Vous concluez mieux que moi. Effectivement, allez voir Spacebus. Voilà, au Spacebus, bien entendu. C'est un nom de manège, ce truc-là. C'est juste génial, en plus. Ça donne envie. Merci beaucoup d'avoir répondu à une partie de nos questions. J'en ai plein d'autres, rassurez-vous. En tout cas, allez faire un petit tour du côté du Spacebus. Merci à vous.
Merci
d'être
à vous.
Passé. Nous allons rendre l'antenne, comme je le disais, juste pour un petit moment, parce qu'en fait, c'est la remise du prix. On est en train de se faire chasser de cette scène et ils ont bien raison. D'ailleurs, on va éteindre les retours histoire qu'ils puissent commencer. Et moi, faire ma petite conclusion sur une petite musique de fond, histoire de dire que nous revenons d'ici une petite demi-heure à peine pour les deux interviews que nous voulions avoir, à savoir le gagnant ou la gagnante de ce prix sur le Salon du Livre de Verneuil, et également histoire de parler de la Lune, parce qu'on ne pouvait pas faire une émission autour du Salon du Livre de Verneuil d'Avre et dit-on sans parler de la Lune. Nous recevons également Guillaume Prévost juste après. Allez, dans une demi-heure on vient, c'est promis.